I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Philippe Mercher, Stéphane Touvenin et Nadège Antonioni. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, en direct, en public du bar Le Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Florence Colombani, Charlotte Garçon et Thierry Chaise pour parler ensemble des Veuves de Steve McQueen, de Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmitt et de Voyage à Yoshino de Naomi Kawase. Un coup de cœur de Thierry Chaise, un vrai coup de cœur, hein, parce que c'est pas pour un film mais pour une actrice. Suspense, on verra ça tout à l'heure. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Les Loups de Jean Lepelletier. À voir donc mercredi 5 décembre à 19h30 au 104 à Paris. C'est dans le cadre du festival Impatience. Et nous ouvrons cette dispute avec un film qui, je l'avoue, m'intriguait fortement avant de le découvrir. Je vais parler des Veuves de Steve McQueen. Vous me voyez venir. Un film de braquage réalisé par le cinéaste de Hunger, de Shame, l'oscarisé réalisateur de 12 Years a Slave, l'ancien Wonder Boy de l'art contemporain dans le film de genre. J'avoue, j'étais assez impatient de voir ça. Il faut savoir que Les Veuves est inspiré d'une série télé britannique, le jeune Steve McQueen regardait quand il était adolescent. Les Veuves, ici, c'est la réunion de quatre femmes, toutes veuves donc de braqueurs, dont le dernier cas s'est terminé tragiquement. Mais les maris ont laissé une grosse dette qu'il va falloir rembourser. On va voir comment, le tout sur fond de campagne électorale dans la ville de Chicago, gangrénée à la fois par la corruption et le trafic de drogue.
You have no idea, do you?
Vous ne savez rien, c'est ça?
Or did you choose not to know?
Ou vous avez choisi de ne rien savoir?
Your husband stole two million.
Votre mari m'a volé 2 millions de dollars.
This is about my life.
Il s'agit de ma vie!
This is about my life. And because it's about my life,
et puisqu'il s'agit de ma vie,
now becomes about yours.
Maintenant il s'agit de la vôtre.
Your family's been involved in Harry's life for many years. I need help.
I don't see what I can do.
Our husbands aren't coming back. We're on our own.
Mon mari m'a laissé les plans de son prochain casse. J'ai besoin d'une équipe pour aller jusqu'au bout.
Pourquoi on devrait te faire confiance?
Parce que je suis votre seul rempart contre une balle dans la tête.
Que les hommes comme votre mari et mon père m'ont appris, c'est qu'on récolte ce qu'on sème.
Let's hope so.
Notre meilleur atout, c'est d'être qui nous sommes.
Pourquoi?
Because no one thinks we have the balls to pull this off.
Voilà pour cet habile mélange bande-annonce VO-VF signé Thomas Beau qui nous quitte hein, ce soir, il quitte la dispute. Vous réécoutez la fin du grain à moudre si vous voulez en savoir plus. Mais comme ça, on a en effet compris de quoi il s'agissait. Je crois que je l'avais assez dit dans mon introduction concernant les veuves de Steve McQueen. Moi aussi j'ai besoin d'une équipe, mais vous êtes là. Florence Colombani, c'est à vous.
Alors, c'est un film assez étonnant par ce mélange qui est peut-être parfois excessif, mais qui en même temps donne un film passionnant entre différentes dimensions. Le plus intéressant, à mon sens, c'est de voir Steve McQueen, réalisateur, comme vous le disiez, venu de l'art contemporain et surtout donc grand amateur de dispositifs, grand formaliste, s'attaquer à un vrai thriller avec des révélations, beaucoup de, une construction assez complexe avec des actes, avec des coups de théâtre,
des retournements de situation.
Tout ça construit par Gillian Flynn, qui est cette romancière à succès qui a écrit Gone Girl, adapté au cinéma par David Fincher, et qui a une capacité quand même assez remarquable à écrire des personnages féminins peu aimables, plein d'aspérité, des personnages très différents de ce que le cinéma nous donne à voir d'ordinaire. Donc le mariage de Steve McQueen, le formaliste, et de cette constructrice d'histoire, ça donne un film très intéressant, très beau surtout, avec une grande sensualité. Alors ça commence par une scène d'amour dans un lit, une scène assez explicite entre Liam Neeson et Viola Davis, qui sont, comme Steve McQueen dans sa promotion ne cesse de le rappeler, pas vraiment les gens qu'on voit s'étreindre au cinéma en temps normal. D'abord parce que l'une est noire et l'autre est blanc, ensuite parce qu'ils sont à un certain âge, donc c'est pas du tout, on n'est pas dans les codes habituels du cinéma. Et il y a tout de suite cette sensualité, mais elle est là aussi quand il filme les voitures dans les rues de Chicago, quand il filme la ville, quand il rentre dans les bureaux des politiciens. Ça m'a presque rappelé le cinéma de Michael Mann par ce côté-là. Et par ailleurs, on a le plaisir du film de casse mené par ces personnages assez inattendus et le plaisir des actrices. Alors bien sûr, Viola Davis, c'est une actrice magnifique qu'on connaît très bien. Moi, j'ai été particulièrement impressionnée par Elisabeth Debicki, qui joue un rôle en apparence plus attendu, celui de la call girl, de la jolie fille, et qui finalement va être celle qui nous étonne le plus dans une sorte de sous-intrigue qui nous emmène un peu du côté de Shame d'ailleurs.
Bien, voilà une belle introduction. Thierry Chaise, vous poursuivez sur Les Veuves.
Oui, je partage vraiment, en tous les cas, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que on peut s'attaquer à un genre venant d'où il est et le prendre de haut et dire voilà, j'arrive avec mon bagage et après tout, je vais me servir de ça juste pour faire un film de plus. Je trouve qu'il embrasse vraiment le genre, mais il l'embrasse à sa manière. Alors en effet, en développant, je trouve les personnages beaucoup plus que dans un film de casse classique. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai un peu peur. Alors, je savais que le titre, c'était Les Veuves, mais je vois Liam Neeson, je me dis, ça va être le énième film avec Liam Neeson en gros bras. On efface et on prend le temps pour chacune de ces personnages de vraiment les raconter avant qu'elles se réunissent. Donc, on a une certaine habitude. Donc, on peut faire des rebondissements puisqu'on sait, on sait qui c'est. Donc, tout ce travail qui est fait. Moi, j'aime bien le travail qui est fait au scénario, la gestion des rebondissements. Alors, peut-être que j'étais particulièrement peu attentif, mais je devinais pas tout ce qui allait se passer. Alors, d'habitude, ça arrive. Le bémol que je mettrais, c'est justement dans la comparaison qu'on fait évidemment avec Michael Mann, où là, il y a dans la manière de filmer les villes, la manière de filmer les cases, je trouve une dextérité moins grande. Il n'empêche que moi, je préfère le Steve McQueen qui vient là que celui de 12 Years a Slave, où il me racontait quelque chose et sa mise en scène ne l'élevait pas. Là, une fois encore, c'est efficace. Moi, je trouve, voilà, ce qui est pour un film de casse, c'est important. C'est profond et on retrouve beaucoup des thématiques qu'il a abordées dans ses films présents, en particulier 12 Years a Slave, sans que ce soit lourd. Donc moi, c'est plus une réussite presque, je dirais, scénaristique que dans la réalisation.
Bon, un air très circonspect, Charlotte Garçon, depuis que vous vous exprimez l'un et l'autre. Hein. Ce n'est pas que Thierry Chaise à qui vous avez réservé cet air, Charlotte.
Non, mais le film est effectivement ouvertement féministe et il réussit, je trouve, dans la constitution de cette équipe, qui est aussi un passage obligé du film de casse. Chacun, comment les éléments vont se combiner entre eux. Là, il pourrait y avoir un effet catalogue. Il y a une noire américaine, une hispanique, etc. On se dit, oulala,
une grande blonde, donc.
Polonaise américaine, ouais. Effectivement, ce beau personnage joué par Elisabeth Debicki. Et on se dit, au secours, catalogue. Et il arrive, effectivement, en se focalisant surtout sur le personnage de Veronica, Viola Davis, qui quand même lorgne vers l'Oscar assez avec des œillades,
ouais,
assez
appuyées. Peu de chance quand même.
En tout cas, il arrive à effectivement nous embarquer à l'intérieur de cette vie qu'elle va devoir quitter, puisque cette sensualité dont vous parlez, c'est aussi la sensualité, je dirais, des objets et des étoffes. Et on sent qu'elle s'est habituée à un certain luxe que son gangster de mari lui avait procuré, et que c'est aussi ça qu'elle va devoir renoncer. Donc quand on dit elle se bat pour pouvoir survivre et rembourser, pour ne pas être tuée par les escrocs et les bandits qui de la dette, en réalité c'est plus que ça. C'est un petit peu comme ce que le personnage de 12 Years a Slave disait, je veux vivre, je veux pas seulement survivre. Donc récupérer cet argent, c'est vraiment à plusieurs niveaux, et notamment aussi c'est une sorte de solde symbolique. C'est en ça que le film est aussi féministe, dans le sens où ses épouses ont quand même subi la vie de leur mari, qui ne leur racontait presque rien, et faire ce casse posthume, pour la première fois, c'est une façon de reprendre en main leur propre vie. Donc ça, c'est plutôt, je trouve tout ça est assez réussi, mais l'air circonspect que vous me voyez, c'est effectivement, moi j'ai vraiment un problème avec Steve McQueen, metteur en scène, voilà, donc pour clair, il y a tout à fait une continuité entre ce film et Shame, enfin et tous ses précédents. Il y a, peu importe qu'il aborde la question, qu'il aborde un film de genre, ce que je sens, c'est quand même une fascination pour les séquences les plus violentes, et plus exactement des scènes sadiques, qui là se passent autour d'un personnage qui est le second, le frère de ce qui est assez caractéristique de Chicago, c'est-à-dire un dealer qui essaye de passer à la politique en se légitimant. Ça, c'est connu dans l'histoire de Chicago. La ville, la corruption de la ville est aussi fondée là-dessus. Et qui a donc un frère qui est son bras armé et qui torture. Et la façon, pour le coup, dont plusieurs scènes de torture sont filmées par cet homme violent, pour moi, on sent une jubilation dans le plan, à un moment, la caméra tournoie de manière complètement gratuite et inutile et jubilatoire autour d'un homme qu'on est en train de tuer. Voilà. Moi, j'ai toujours senti, y compris dans les coups de fouet de 12 Years a Slave, qu'au fond, Steve McQueen avait beau embrasser des sujets, l'addiction au sexe, l'esclavage, etc. Finalement, ce qui le fascinait, c'est cette violence. Et là aussi, et finalement, alors pourquoi ne pas filmer les truands ? Pourquoi faire semblant de s'intéresser aux veuves à ce moment-là ?
Mais moi, je dirais quand même que ces veuves sont des truands. Enfin, c'est quand même ça l'intérêt aussi du film. C'est qu'au départ, on est sur cette idée assez simple de femmes auxquelles on aurait menti, qui n'auraient pas tout à fait compris ce que faisait leur mari, ou en tout cas qui se seraient tenues en retrait. Et puis assez vite, on comprend qu'elles en savaient plus long qu'on ne croyait, et surtout qu'elles sont tout à fait capables, elles aussi, de monter un casse. Ce qui est vrai, c'est qu'il montre il peint un monde qui est totalement rongé par une sorte de mal silencieux, qui est la corruption, et que de tous les côtés qu'on se tourne, il n'y a que ça. Et là, d'ailleurs, la frontière entre la politique et le gangstérisme est tellement ténue qu'à un moment, je me suis vraiment posé une question de pure vraisemblance, qui est que le Colin Farrell, qui joue le fils de l'homme politique en vue, qui lui-même est candidat, se montre quand même à l'enterrement de Liam Neeson, le gangster, sans qu'un seul journaliste se pose la question de pourquoi il est là et pourquoi il vient serrer sa veuve dans ses bras, etc. On voit que voilà, c'est un monde rongé par le mal, et il y a une sorte de sous-texte là qui est un petit peu un lieu commun aussi de la représentation de l'Amérique.
Ouais, alors, peut-être pour revenir sur la question de la souffrance, parce que moi je crois que c'est clairement le sujet de Steve McQueen, mais depuis le début, et que pour le coup on a un catalogue, parce que Hunger, c'était que ça, un corps supplicié, un homme qui fait la grâce de la faim, Bobby Sands, jusqu'à en mourir, et donc c'était vraiment un parcours, on va dire, christique. Shame, c'est quand même absolument le sujet aussi, 12 Years a Slave, on aura compris assez facilement, et donc là il peut pas s'empêcher, je pense, Steve McQueen, de traiter cette question-là. Alors du coup il le fait pas en douce, parce que c'est quand même très visible, mais il réintroduit quelque chose qui n'était pas nécessaire. Moi, je suis d'accord avec vous, mais bon, la question de la représentation de la violence au cinéma est une question ancienne qu'on ne tranchera pas ce soir, mais on pourrait relancer le débat là-dessus. Mais en tout cas, il est certain que Steve McQueen a, je ne sais pas s'il faut dire un problème avec ça, mais en tout cas, interroge, creuse, questionne de film en film. Pour revenir à ce que vous disiez, Florence Colombani, alors il y a aussi Il y a le film féministe, il y a le film sur l'Amérique, mais qui ça c'est le, on va dire le volet The Wire sur écoute en bon français de cette série qui auscultait les rapports d'argent, de trafic, etc. Et puis il y a une sous-partie qui là serait plutôt un film de James Gray, qui est le rapport entre Colin Farrell et son père, interprété par le toujours génial Robert Duvall. Qu'est-ce que c'est qu'une dynastie politique? Qu'est-ce qui se donne ou se donne pas très volontiers d'un père à un fils? Qu'est-ce que c'est que la question de l'héritage? Et je trouve que j'ai un peu de mal avec James Gray depuis un certain temps. Là, il se passe quelque chose de vraiment intéressant, alors que Colin Farrell n'est pas mon acteur favori, loin s'en faut. Mais moi, je trouve que du coup, ça donne un film extrêmement riche, parce qu'on a quand même ce film de casse, dont vous avez justement parlé des uns et les autres, mais un film de casse adulte, on va dire, comme Michael Mann. Et alors là, c'est époque Le Solitaire, avec un autre camarade de Robert Duvall, c'est James Caan qui jouait Le Solitaire, film de 81 ou 2. On retrouve cet esprit-là, cette façon de faire ça sérieusement. Hein, un casse et un film de casse, ça n'empêche pas d'avoir une mise en scène. Moi, je suis assez friand de la façon dont Steve McQueen compose ses plans, fait ses choix de musique, de photographie, et j'avoue que moi, j'ai plutôt aimé ça. J'ai vu beaucoup de mes camarades critiques sortir de la projection de presse où j'étais en tordant le nez, en disant vraiment, qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous a fait, c'est vraiment indigne, c'est nul, c'est vraiment du grand public. Si c'était à chaque fois comme ça, vous êtes d'accord, Thierry Chaise?
On aimerait que ce soit vraiment du grand public, justement. Et là, ça ne l'est pas. Vraiment, surtout sur ce genre de film de casse qui est maintenant traité sous forme de comédie d'action. Mmh. Ça devient un principe à une comédie où on va un peu se fendre la poire, on va être un peu rigolard. C'est-à-dire que quelqu'un le prenne au sérieux. Puis c'est vrai, en 2h09, il y a une richesse quand même qui est absolument incroyable. Je trouve que c'est... Donc si ça, c'est un film grand public, tant mieux. Vive les films grand public, comme Les Veuves.
Charles Garçon.
Mais moi, j'ai au contraire eu l'impression, effectivement, d'une forme de superficialité, parce qu'il embrasse beaucoup, et à ce moment-là...
Mais il est très mal.
Oui, parce que Show Me a Hero et donc les deux, ouais. et The Wire, forcément, ont besoin du temps de la série pour tisser quelque chose de très, très complexe dans les liens, et qui explique pourquoi un politicien peut venir à l'enterrement d'un gangster. Donc là, on n'a pas ces couches, cette sédimentation, et on est censé, par nos connaissances extérieures, disons, accepter ça, de même qu'on est censé accepter qu'un groupe de femmes qui n'a jamais baigné dans le gangstérisme directement sache organiser un casse. Bon, après, ça peut être traité... Il y a une part de comédie dans les ratés du casse.
Si on a un mode d'emploi, peut-être qu'on en est capable. On est quatre, là, on essaye.
Moi, je persiste quand même à penser qu'il y a cette forme de superficialité et aussi de côté un peu vernissé, artistique, esthétisant, et qui pour moi se cristallise vraiment dans ces scènes violentes, qui sont quelque chose qui me reste, alors qu'elles sont censées, du point de vue scénaristique, être marginales, parce que elles s'exercent auprès de personnages qui n'ont aucune existence sauf en tant que corps supplicié. Notamment un homme qui est en fauteuil roulant et qu'on bat. Il y a une gratuité de ça, et ça me semble quand même être l'impensé. Vous dites que c'est une obsession pour Steve McQueen. Moi, j'ai l'impression que peut-être que c'est quelque chose qui le travaille, et effectivement, thématiquement, c'est évident, mais qu'il y a une part d'impensé de cette violence toujours esthétisée.
Réaction, Florence Colombani.
Non, en tout cas, moi, dans mon souvenir, il y a deux scènes de violence, et dont une qui se passe hors champ et qui est surtout sur la bande-son, parce que justement, la caméra se détourne et se fixe sur un écran de télévision qui est vide, ce qui est sans doute quelque chose de trop... Mais il ne me semble pas qu'il y ait tant de scènes de violence que ça. En fait, il y a essentiellement cette scène avec le personnage en fauteuil roulant qui est en effet dérangeante. Il me semble, moi, qu'elle remplit quand même une fonction narrative assez claire, qui est de poser aussi qui sont les méchants du film.
Ouais, moi, j'en compte au moins trois sur ce modèle-là.
Bon, vous comparerez vos statistiques plus tard. Un dernier mot, Thierry Chaise, dans cette question.
C'est quasiment mon préféré, Steve McQueen.
Ah oui, c'est pas le cas. Mais en fait, je ne les revois pas, moi, les films de Steve McQueen. J'ai peut-être un problème avec Steve McQueen.
Finalement.
Alors que ça me passionne assez, ce qu'il fait toujours. Bon, nous parlions des Veuves. Allez voir par vous-même ce film de Steve McQueen sorti sur les écrans. C'était pas ce mercredi, hein. Si, c'était ce mercredi. Oh, je ne sais plus, moi, je ne sais plus quel jour on est. Nous sommes le 30 novembre, paraît-il. À suivre dans la dispute, Diamantino de Gabriela Gabrantes et Daniel Schmidt, Voyage à Yoshino de Naomi Kawase, et le coup de cœur de Thierry Chaise pour une actrice. On n'a pas encore dit son nom.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute cinéma avec Diamantino de Gabriel Brantes et de Daniel Schmidt. Diamantino, c'est une superstar du football dont la ressemblance avec Cristiano Ronaldo n'a évidemment rien de fortuite. Comme CR7, Diamantino est inarrêtable sur le chemin des buts adverses jusqu'au jour où, ça tombe mal, c'est la dernière minute de la finale de la Coupe du Monde, le génie n'opère plus.
Messieurs, dames, deux minutes d'attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler de Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un grand prix au Festival de Cannes. C'est bien, non? Diamantino, c'est moi. Pas mal, hein? On m'appelait le Michel-Ange du terrain. Quand j'y jouais, il se passait des choses assez folles. Mais un jour, j'ai eu cette vision.
Qu'est-ce que c'est, juste?
Sont refugiados, refugiados.
C'est vrai, en dehors du football, je ne connais pas grand-chose. Et la rencontre avec ces gens, ça m'a ouvert les yeux. Sur les terrains, j'en ai perdu la magie.
La carrière de Diamantino est pratiquement
acabée.
Elles, ce sont mes sœurs. Je pense que vous n'allez pas les aimer. Il faut dire qu'à cause d'elle, il va m'arriver des choses bizarres.
O Diamantino vai ser o nosso ícone e depois será clonado pelo partido.
A minha Nossa Senhora.
Il y a aussi Raïm, un jeune que je vais aider et qui va changer ma vie.
Tu tens de fazer uma cara como se tivesse uma cara bonita, profunda. Tu tens de fazer a cara de um peixe.
Et à partir de là, j'ai perdu tout contrôle.
Diamantino!
Pourtant, je n'ai jamais rien fait de mal.
Mais ce qu'elle faisait au pain.
Mais j'arrête là, sinon vous allez dire que vous avez tout vu dans la bande-annonce. Et puis les médias en parlent mieux que moi. Voilà, c'est toute une histoire. Venez plutôt voir le film. Je parle pas très bien français, mais ça va, vous avez compris?
Alors, j'avais pas vu la bande-annonce de Diamantino, mais pour une fois, moi qui n'aime pas les bandes-annonces, j'ai l'impression que celle-ci ressemble au film. Même si on a eu que la version sonore ici. Thierry Chaise, grand amateur de football. Ah, non, j'en sais rien. Vous aimez le foot, Thierry? Depuis le temps qu'on se connaît, je ne savais pas. Ouais. Je n'aimais pas cette information sur vous.
Voilà, mais elle vient de tomber. Et du coup, j'ai été découvrir ce film à Cannes à la Semaine de la Critique avec une immense joie. Et c'est un film plein de paradoxes pour moi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on a retenu dans la bande-annonce, c'est-à-dire un mélange des genres absolument, que je trouve passionnant, c'est-à-dire à la fois sur le fond et sur la forme. On va, à la suite donc de ce ballon manqué, de cette défaite, il va arriver tout un tas de catastrophes, et surtout, il va arriver ce personnage, donc sort de Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est le pendant de Ben Stiller dans Zoolander. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup un personnage à travers lequel on va raconter, on va jouer autour de la masculinité, on va raconter plein de choses sur qu'est-ce qu'être un homme, quasiment de manière sexuelle, avec cette idée de choses assez délirantes, assez burlesques, et en même temps, on traite de questions comme le néofascisme, la crise des migrants, les trafics génétiques délirants. À un certain moment, je me suis dit, tiens, je rêverais de voir finalement peut-être ce film fait par les sœurs Wachowski. Mmh. J'imaginais bien le résultat de Sense8.
Bah, déjà qu'on n'y comprend pas grand-chose à Diamantino.
Et bien voilà, mais je me dis,
est-ce qu'on irait ?
En fait, voilà, donc tout cet ensemble-là, qui est assez baroque, moi je trouve peut fonctionner, et j'ai en même temps la sensation par moment de quelque chose d'assez rigolard. J'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'il y a pour son personnage un regard un peu en coin, un peu en biais, où on rit beaucoup, non pas avec lui, mais à cause de lui. Et alors peut-être parce que c'est un premier film, peut-être parce que c'est mal maîtrisé, mais qu'à certains moments, tout ce qui me faisait rire, je me disais, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais ça me met à distance parce que j'ai le sentiment, justement, qu'à force de vouloir trop mélanger, qu'à force de vouloir s'emparer de thèmes très, très forts, donc dès qu'on fait de la comédie, on sacrifie un peu les choses et ça devient un film moins intéressant qu'il est. Donc voilà, à la fois un plaisir immédiat et au fur et à mesure du film, une impression quand même, voilà, d'une ironie parfois que je trouve assez mal placée.
Cher garçon qui va jouer au foot tous les dimanches.
Absolument.
Comme chacun sait.
Avec des chiens, roses.
Rose.
C'est difficile la comédie, hein. Et je pense que la farce est encore plus difficile. Ouais. Et la farce sociétale, voilà, qui là aussi embrasse
beaucoup.
Encore
plus difficile.
Donc bon, inutile de dire que je n'ai pas ri, mais peu importe. Mais c'est-à-dire que cette bigarrure qui est posée... Alors, par contre, l'ouverture qui dans mon souvenir, se fait dans la galaxie, avec cette voix off, pose quand même une sorte de dispositif, de pacte avec le spectateur, à la fois d'un lyrisme, d'un côté parodique, et d'un personnage campé dès le début comme étant un idiot, mais vraiment un idiot au sens à la fois génial et vide, et donc un dispositif, finalement. Un personnage qui est un dispositif. Alors, pourquoi pas ? Donc je...
Parce que c'est lui qui raconte.
Voilà. J'étais plutôt... je me suis dit, l'énonciation va se caler sur l'idiotie de ce personnage et on va voir ce que ça peut provoquer. Et en fait, malheureusement, je suis au regret de dire que pour moi, non seulement ça n'a pas provoqué le rire, mais plus ça avançait, plus je me disais que cette bigarrure et cette, disons, cette, ce côté délibérément de plus en plus explosif et explosé et diffracté du récit n'apportait rien. C'est-à-dire que vous dites, il traite de sujets très importants. En réalité, il ne les traite pas. Il les survole, il les approprie, mais sans avoir vraiment d'idée de quoi en faire. Alors, je ne veux pas dire qu'il devrait résoudre la crise des réfugiés le temps d'une farce sur un joueur de football. Je veux dire qu'il s'empare de quelque chose et qu'ensuite, même du point de vue narratif, j'ai l'impression qu'il ne sait pas où amener ses personnages. Donc, c'est un petit peu le problème que j'ai eu. Après, l'impression générale de métamorphose permanente des êtres et des choses, et de l'image surtout, parce qu'il y a des régimes d'image, il y a du grain 16 mm, il y a des choses faites sur fond vert, des effets, etc. Moi, a priori, c'est plutôt quelque chose d'intéressant parce qu'elle ne s'arrête jamais vraiment. Et bien sûr, elle est à mettre en parallèle avec le côté de plus en plus androgyne de ce personnage censé résumer une forme de masculinité voilà, juvénile et en bonne santé. Donc ça, c'est plutôt à mettre pour moi au bénéfice du film. Mais je ne comprends pas en fait le côté exagéré de tous ces personnages, les sœurs méchantes, les sœurs jumelles méchantes. On a l'impression que parfois certains plans sont empruntés à Wes Anderson dans le travail sur la symétrie frontale, etc. Donc j'ai eu l'impression d'une bigarrure qui était faite d'emprunts ici et là pour aboutir voilà, à quoi au fond ?
À quoi ? Florence Colombani.
Ah, si j'avais une réponse, ce serait formidable. Non, mais justement, je trouve que la comparaison que faisait Thierry Chaise avec Zoolander est très juste parce que, en fait, le duo qui signe ce film, c'est un duo composé d'un réalisateur portugais et d'un américain. Et le côté portugais, le côté Ronaldo, le foot, la thématique du Portugal qui pourrait quitter l'Union européenne, tout ça fait un peu écran. Mais finalement, les sources de ce film sont plutôt à chercher, je pense, du côté de cette comédie délirante à l'américaine qui souvent, d'abord, se perd un peu à la traduction et ensuite se perd beaucoup parce qu'elle repose sur l'amour qu'on pourrait avoir pour un personnage et le rire qui peut venir d'un personnage. Et je trouve que là, tout le pari du film, c'est ça, c'est que les réalisateurs sont clairement amoureux de leur personnage, ils le trouvent irrésistible, ils pensent que nous aussi on va le trouver irrésistible. Et si ça ne fonctionne pas, c'est terrible parce que c'est dans ce creux-là que reste le public. Donc il y a ce désir qu'on ait envie de le contempler, qu'on ait envie d'en rire, qu'on ait envie même qu'il s'en sorte, enfin qu'on ait un petit peu d'empathie pour lui et pour ses moments de romantisme niais et pour son chaton. Enfin, après, on part dans des détails qui sont, si on n'a pas d'empathie pour le personnage, complètement vains et qui nous perdent. Et il y a quelque chose au tout départ du pacte du film qui n'advient pas.
Bon, je vous écoute, hein, je prends plein de notes en même temps parce que je suis plus en réaction à ce que vous avez dit. Mais je trouve le film moins bené que son personnage, hein, contrairement à ce que vous avez l'air de penser les uns et les autres. Alors c'est vrai que le début est quand même très très beau. On part de la galaxie pour arriver jusqu'au-dessus d'un stade de football. Et puis après on plonge sur le terrain. Je me suis demandé si c'était pas une version fictionnelle au sens où c'est non documentaire du film magnifique de Douglas Gordon et Philippe Marino, Zidane, un portrait du 21e siècle qui avait suivi à l'aide de nombreuses caméras tenues par des grands chefs opérateurs de cinéma à Zidane pendant l'espace d'un match au Real de Madrid il y a quelques années de cela, qui est vraiment, je trouve, un film magnifique, qu'on aime le foot ou pas d'ailleurs. Mais là on revient du côté Steve McQueen, art contemporain. Mais ça part tout à fait autre chose, parce que d'un coup, en effet, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais je n'en dirai pas beaucoup plus, tout d'un coup sur le terrain apparaissent des caniches géants.
Et là, pékinois, non ?
Enfin, pardon.
Soyons précis.
Ah, je ne m'y connais pas en marque de chien tellement. Ça va être ça le problème. Bon, des petits chiens avec des grosses fourrures, mais très très gros, très très démesurés. Et donc là, on s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Moi, je trouve ça déjà assez intéressant, cette liberté. Et puis après, les sœurs Wachowski, j'entends bien sur le côté gender fluide. Parce que les femmes peuvent être des hommes et les hommes peuvent se transformer en femmes dans ce film-là. Là aussi, j'en dirais pas beaucoup plus. Et alors, du coup, je me suis demandé si on n'était pas devant une version plus grand public des Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Parce qu'il y a quand même aussi cette expérimentation visuelle qu'évoquait Charlotte Garçon sur ces différents régimes d'images, ces différents grains d'images. Et puis, la caricature, les sœurs, elles sortent tout droit de Cendrillon, à l'évidence. Ce sont vraiment les sœurs méchantes. Et ma foi, comme elles sont un personnage et pourquoi pas. Mais effectivement, c'est très audacieux, si on le prend d'une façon trop pesante, d'évoquer la question des migrants, d'évoquer la question du populisme, du Portugxit ou du Portexit, je ne sais pas comment il faudrait dire, la sortie du Portugal de l'Union européenne. Mais je trouve qu'ils ne le font pas de façon si survolée que cela. Il y a une séquence qui se situe au début du film où ce jeune abruti de Diamantino voit effectivement un canot de migrants parce qu'il est sur son yacht de multimillionnaire et il ne sait pas du tout ce qu'il voit, il ne comprend pas ce qu'il voit, il n'a jamais entendu parler de ça, il comprend le mot réfugié, il l'entendra mal et il le répétera mal, il va le déformer. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'innocence, de naïveté, vous savez, c'est comme ces films où tout d'un coup on est projeté dans un monde qu'on ne connaît pas et du coup on regarde autrement la réalité très quotidienne. Et c'est vrai qu'il se retrouve à être embrigadé, on va pas dire comment, par un parti d'extrême droite, mais sans comprendre, il trouve ça bizarre. Et moi, j'aime bien cette façon de regarder, très faussement naïve, mais naïvement, l'actualité très contemporaine, très concrète. Oui, il y a des gens qui sont sur un bateau parce qu'ils fuient leur maison, parce qu'ils... leur pays, ils n'ont pas de quoi vivre, pas de quoi manger, c'est terrible. Prenons soin d'eux, il faut les aimer énormément, il faut les accueillir. C'est quand même des choses qui sont dites dans ce film par ce personnage-là, à qui on prête toutes les mauvaises intentions peut-être, mais c'est très simple de dire une chose comme ça. Il faut accueillir des gens qui n'ont pas à manger et à boire. On a cette richesse. Ben, donnons-leur tout notre amour. Ça vous a pas du tout touché, Charlotte Garçon ?
Si, justement, le moment où de son yacht, parce qu'il est sur son yacht avec son père, et il voit au loin ce canot, il comprend pas très bien le mot réfugié, alors il les appelle les fugiés. Ça, je trouve ça effectivement réussi. Le problème, c'est qu'il y a un film derrière. Et qu'ensuite, il y a un personnage de policière infiltré qui enquête.
On va pas en dire trop.
Sur lui, oui, mais c'est important parce que ce personnage féminin, comme par hasard, il a, mais vraiment, j'ai compté à peu près 5 lignes de dialogue, alors qu'il est quand même très présent physiquement, et l'actrice rit pour le coup bêtement, alors que son personnage, c'est censé être une policière de haute...
Non, son personnage, c'est censé être, comme vous l'avez dit, une infiltrée, donc elle joue un rôle qui ne donne pas beaucoup de texte.
Non, franchement...
Non, mais si, c'est...
Non. Franchement, il n'y a aucun travail des autres personnages. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est la perception par ce personnage idiot du monde actuel, de sa violence, voilà, dans son espèce de bulle de Barbapapa, parce que les chiens, ils sont aussi entourés d'une sorte de nuage rose, c'est elle qui se représente en fait sa jubilation d'être sur le terrain, dans ce monde protégé et cet écrin qu'est le stade pour lui. Donc ça, oui, cette confrontation-là, cette violence qui arrive comme ça et qu'en faire, moi je trouve ça intéressant. Le problème, c'est qu'il y a des personnages, il y a un récit, il y a la durée du film et là, ça s'effondre complètement.
Richesse, d'accord.
Il y a une question de durée, exactement. C'est que, justement, ce foisonnement-là qui est vraiment impressionnant. Moi, c'est vraiment surtout la forme qui m'a plu. Sur 1h30 ou 1h40, je trouve que ça s'essouffle vraiment. Et moi, je pense pas du tout que c'est un film d'un bonnet. Pas du tout. Au contraire. Je trouve qu'il est trop malin par moment, justement. Et c'est ça.
Non, mais vous disiez superficiel aussi.
Oui, mais c'est pas bonnet. Superficiel parce que, à force justement d'être un peu malin, de savoir comment amener le spectateur quelque part, l'amener. C'est un film qui a le sourire en coin en permanence, et j'ai l'impression que cette moquerie-là, me gêne, comme si c'était au-dessus de leur sujet. C'est-à-dire qu'en effet, ils sont amoureux de ce personnage, mais le sentiment que ça va au-delà de ça, qu'il y a une manipulation. C'est-à-dire que comme spectateur, ça m'a dérangé.
Non, je précise, ça ne m'a pas du tout fait rire non plus, mais j'étais plutôt en empathie avec ce Diamantino, qui est quand même magnifiquement joué par... Alors, c'est peut-être un film que beaucoup plus de personnes ont vu, mais Le Tabou de Miguel Gomes, c'était lui le beau garçon de ce beau film, et je trouve qu'il est assez remarquable dans ce rôle tout en bouche B. Florence Colombani.
Oui, non, peut-être une chose positive sur ce film.
Merci de me soutenir un peu.
C'est le rapport au foot est quand même assez intéressant parce que le fait d'avoir choisi une sorte de double de Ronaldo pour être le héros de Diamantino qui est si idiot, etc. Au départ, on peut se dire ça va être la caricature du monde du foot et pour le coup, un regard un peu rigolard et roublard là-dessus. Or, je ne trouve pas que ce soit le cas et je trouve même qu'il y a une certaine tentation d'utiliser le stade de foot comme un lieu cinématographique et comme un lieu d'expérimentation qui est assez prometteuse, mais ils n'y passent pas assez de temps parce qu'ils sont occupés à pourchasser beaucoup de sujets à la fois.
Enfin, certes, il y a quand même un problème énorme. Je comprends pas comment. Enfin, c'est peut-être un problème avec la fédération portugaise, mais parce que dans les deux matchs qu'on voit, le Diamantino est censé jouer pour la sélection nationale, il n'a pas du tout le maillot du Portugal sur les épaules.
C'est une grande star, ça commence là. Ouais.
Ça ne va pas du tout. Non, ce film est vraiment décidément très libre. Charlotte Garçon.
Voilà, tout est dit, tout s'effondre. Je savais que ça s'effondrait.
Peut-être qu'ils n'ont pas eu le droit. Parce que le Portugal, comme nombre de pays, est très chatouilleux avec sa sélection nationale. Et que,
oui, mais ce que ça résume, c'est que tout ça est imagerie. Voilà,
si
c'est
on
ça,
faisait
moi,
un film avec Mbappé comme Diamantino, je ne suis pas sûr que ça passerait très bien avec la Fédération française de foot.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va voir un film et on a une espèce d'usine à images. Voilà, c'est ça le...
Ça veut dire quoi, ça, usine à images?
Parce que j'ai l'impression que tout est de l'ordre de l'imagerie. Donc c'est épuisant.
Voilà. Ça vous a épuisé. Trop long, il y a eu des prolongations, c'était trop long pour vous, ce Diamantino.
Au pénalty, vite. Ouais.
Eh bien écoutez, allez voir par vous-même, vous qui nous écoutez, ce film de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt, il s'appelle, encore vous l'auriez oublié, Diamantino.
Good morning.
Will you have dinner with me?
Yes. Whatever you do, do it carefully.
Et là, le cœur de Thierry Chaise bat plus fort parce qu'il a entendu la voix de...
Vicky Krieps.
Vicky Krieps, votre coup de cœur, donc même pas pour un film,
mais
Thierry Chaise.
Elle est dans un film.
Mais pour une actrice.
C'est pour moi la révélation de cette année cinéma 2018. On arrive au mois de décembre, on l'a découverte réellement, même s'il avait fait des films avant, dans Phantom Thread.
On en parle toutes les semaines de ce film que je déteste. Ça ne peut plus durer.
Ben voilà, mais
Cécile Como en parlait la semaine dernière encore, vous me voulez du mal.
On est obligé, Non, c'est vraiment un parcours très étonnant, parce qu'elle arrive véritablement à la consécration, à la trentaine passée. Alors généralement, c'est le moment où les comédiennes ont depuis un moment été révélées. Elle est luxembourgeoise, et comme elle le dit elle-même, j'avais autant de chance d'être immortelle que d'être actrice. C'est un pays où il y a une école de théâtre, une seule, et...
Il n'y a pas une population énorme, donc.
Non, et on ne fait pas ce métier-là. Et en fait, elle a réussi à le faire, elle est en Suisse, et là où, alors qu'elle végétait, il y a eu ce mail de Paul Thomas Anderson, reçu...
Que vous avez lu ?
On ne sait où. C'est elle qui l'a reçu. Non, mais elle reçoit alors qu'elle ne travaille pas.
J'ai des informations, moi, précises.
Non, elle ne travaille pas, elle reçoit ce mail. Et c'est un joli moment. Parce qu'il a vu sur une plateforme un de ses films. Il a dit, je crois que c'est vous qui allez pouvoir jouer face à Daniel Day-Lewis. Elle dit, mais comment vous allez regarder ce film? Il dit, parce que je vous ai vu à un moment, dans une scène de film, je ne me souviens plus lequel. Et elle avait joué un petit rôle dans l'ultime film de Philip Seymour Hoffman, qui était le grand ami de Paul Thomas Anderson. Et donc, l'entrée en cinéma réel de Vicky Krieps se fait grâce à ce petit coup de pouce de là-haut.
Posthume.
De Philip Seymour Hoffman. Et j'en parle parce que donc, elle est à l'affiche actuellement de Gutland, film luxembourgeois, film réalisé par...
On n'a pas beaucoup non plus.
Non, et c'est réalisé par son ami d'enfance. C'était, je pense, les deux qui voulaient faire du cinéma au Luxembourg qui sont mis. Et c'est une comédienne.
Est-ce qu'on peut parler du financement du film?
Voilà, mais c'est une comédienne que je trouve extrêmement. Ouais, pas tellement. Il va y avoir un Lix quelconque. Oui, oui. Un Luxembourg.
Un Gutland Lix.
Là, elle joue un rôle tout à fait différent que la muse véritablement du film Paul Thomas Anderson. C'est quelqu'un qui est capable là de jouer quelque chose du monde, un personnage inquiétant. Elle a une palette absolument énorme et elle est l'année prochaine à l'affiche de 4 ou 5 films français. C'est-à-dire qu'elle a refusé d'aller aux États-Unis après le film de Paul Thomas Anderson, ce qui explique d'ailleurs pourquoi elle n'était pas nommée aux Oscars. C'est qu'à partir du moment où on refuse d'y aller, on ne va pas investir sur vous pour avoir un prix. Et elle sera à l'affiche des prochains Janssen Love, du prochain Mathieu Amalric, et elle s'installe ici. Et elle s'installe ici, et je trouve qu'il y a quelque chose de réjouissant de voir quelqu'un qui, en effet, n'avait a priori rien pour ici, et qui est dans son pays d'origine, et qui a une palette de jeux absolument extraordinaire. Alors, vous n'avez peut-être pas aimé le film de Paul Thomas Anderson. Non. Allez la voir plus rude, plus violente dans Gutland, et retrouvez-la l'année prochaine dans tous ses films. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup les cinéastes. Et la preuve, voilà, on dit toujours, avant 30 ans, si vous n'avez pas réussi au cinéma, vous ne réussirez jamais. Vicky Krieps en apporte la preuve du contraire de manière la plus flamboyante.
Vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré.
Ah ! Alors ?
Bien sûr !
Alors ? Bah non, mais un travail d'investigation.
Mais je ne suis Florence Colombani aussi l'a rencontrée.
Ah, vous passez le témoin à Florence.
Non, et elle est aussi sympathique et brillante que son jeu ne le montre en tous les cas. Non, mais c'est quelqu'un qui en tous les cas pense le jeu d'acteur, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui réussit dans son domaine parce que elle a une manière de travailler les rôles que je trouve intéressant, qui n'est pas l'acteur studio non plus, qui est sa méthode à elle. Mais qui fait qu'on entendra beaucoup parler l'année prochaine.
Vous voulez dire un mot, Florence Colombani ?
Elle jouait Jenny Marx aussi dans le film sur le jeune Karl Marx de Raoul Peck. Et elle était déjà aussi très saisissante dans ce rôle.
Bon, 2019 sera l'année Vicky Krieps. Voilà. Et vous nous l'aurez dit ici, Thierry Chaise, le 30 novembre, car je sais le jour que nous sommes, le 30 novembre 2018. Thierry Chaise l'a annoncé dans La Dispute.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte. Get the right.
Et pour le dernier film au sommaire de cette émission en public au Bel Air, le bar de la maison de la radio, on vous invite à nous rejoindre chaque vendredi. On est heureux de voir que tous ces visages autour de nous le vendredi soir. Un film, mais là je vais être moi aussi auditeur parce que je n'ai pas encore vu. Irai-je voir Voyage à Yoshino de Naomi Kawase. Vous savez que je remets entre vos mains un bout de ma fin de semaine. Est-ce que je dois aller voir ce film dans lequel Juliette Binoche est à l'affiche ? Elle interprète le rôle de Jeanne, qui arrive au Japon pour rechercher, ai-je lu, une plante médicinale très rare. Et lors de cette quête, elle va rencontrer Tomo, qui lui est garde forestier. J'ai bien compris que le voyage va un peu changer de nature. Voilà pour cette bande-annonce de Voyage à Yoshino. Et c'est Charlotte Garçon qui commence à nous en parler de celui de Naomi Kawase.
Oui, c'est un film, à mon avis, qu'on apprécie peut-être davantage si on a déjà vu d'autres films de Naomi Kawase, qui fait d'ailleurs l'objet d'une rétrospective.
Au Centre Pompidou, rétrospective, exposition jusqu'au 7 janvier pour tout voir, savoir sur Naomi Kawase. Alors, il faudrait commencer par quoi, tiens ?
Par plutôt ses premiers films autobiographiques, parce qu'elle commence avec des choses qui sont entre le documentaire et la fiction, et souvent d'ailleurs elle fait un film de fiction suivi d'un documentaire plus ou moins lié à la fiction qu'elle vient de tourner. Ce qu'on voit au début de son travail, en tout cas moi celui dont j'avais eu connaissance au début des années 2000, donc le travail qu'elle commence à la fin des années 90, c'est quelqu'un qui est quand même très travaillé par une généalogie compliquée, voire absente. Elle est orpheline, enfin son père ne l'a pas élevée, etc. Et elle est élevée par, je crois, une grand-tante qui devient sa grand-mère adoptive, bon, et qui du coup semble avoir substitué cette généalogie absente, semble lui avoir avoir substitué l'attachement à un lieu, à sa ville natale, la ville de Nara, qui là encore est dans la région qu'on va voir dans Voyage à Yoshino. Et dans tous ces films, il y a cette sorte d'attachement particulier à ces lieux où on sent que c'est... Alors je crois que Nara était la capitale du Japon il y a très 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 longtemps.
À un moment donné.
Au 8e siècle, je crois. Et on sent qu'il y a ces choses très très anciennes, des traditions anciennes, mais qu'elles n'expliquent pas, qu'elles ne décrivent pas de manière ethnographique, mais qui traversent ces films. Et le point d'orgue de cette représentation, cette mise en présence de choses très anciennes et du pur présent du plan, c'est peut-être son film de 2003, Chara, qui était vraiment, à mon avis, son meilleur film et qui continue de travailler quand on le voit aujourd'hui, mais finalement elle fait un peu toujours le même film et malheureusement un peu dégradé, à mon avis, d'année en année.
Et de plus en plus avec celui-ci. On revient sur celui-ci avec vous dans un instant, mais on fait tourner d'abord un peu la parole, Charles Garçon. Florence Colombani, comment est-ce que vous avez reçu, vous, ce voyage à Yoshino?
Non, mais je trouve ça assez symptomatique que Charles Garçon, qui aime cette cinéaste, en passe par tous ses films précédents, parce que c'est vraiment un film, quand on le découvre pour lui-même, qui est difficilement aimable. C'est une fable sur, avec des éléments de surnaturel, qui se passe beaucoup dans une forêt, très bien filmée, c'est très beau. C'est assez apaisant, il y a presque un côté film d'ascenseur, comme ça on pourrait projeter ces plans de forêt.
Film d'ascenseur.
Mais il y a vraiment un problème dans de narration et d'incarnation des personnages, et je trouve qu'il y a une tendance du cinéma contemporain assez périlleuse qui est cette tendance des acteurs, notamment français, à aller visiter les cinématographies de cinéastes étrangers.
Ben, on en a deux, Juliette Binoche et Isabelle Huppert, qui sont coutumières du fait.
Ça peut être très beau, c'est pas du tout pour...
Pardon ?
Là c'est une idée venue de la production.
Ah, je crois pas, non. Je pense que c'est Juliette Binoche, moi, qui a
moi,
été...
C'est ce que
bon,
ben
bref.
En tout cas, c'est un trait quand même assez récurrent du cinéma d'auteur international, qui souvent accueille l'une de nos grandes actrices dans son univers.
Et ça peut être très, très bien aussi.
Ça peut être très bien, c'est pas du tout pour disqualifier le principe. Simplement, quand ça ne prend pas, ça accentue beaucoup aussi les défauts de chacun. On retrouve l'actrice, en l'occurrence Juliette Binoche, dans un emploi qu'on lui connaît quand même un peu trop, qui est celui d'une femme nimbée par la grâce, avec une spiritualité débordante, et voilà. Et d'un autre côté, la cinéaste Naomi Kawase, qui est dans une sorte de veine un peu Terrence Malickienne.
Ah, c'est méchant, ça. C'est dur, hein.
C'est dur.
Moi, je vais avoir du temps ce week-end, moi.
Parce que le film nous donne peu. Le film avance comme ça sur des lignes un peu théoriques et ne nous prend pas, il me semble. Enfin, Thierry Chaise, peut-être.
Un avis différent ?
Non.
Vous voulez passer la parole, c'est ça ? Thierry Chaise.
Alors, moi, c'est une thèse qui ne m'a jamais beaucoup passionné. Mais j'écoutais à chaque fois ce qu'on disait. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, c'est vraiment un très, très profond sentiment d'ennui. C'est très beau, très ennuyeux. Mais... dans les films précédents, il y avait quelque chose qui était au moins de l'ordre de l'observation, on pouvait se laisser emporter par les images. Là, j'ai aussi le son, c'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai les dialogues, et qu'il y a un mélange entre, oui, vraiment, quelque chose de très malikien, mais plutôt Voyage of Time, et des, on peut dire des hommages aux parodies des boys bands des années 90, quoi.
C'est-à-dire?
Bah, ça peut être le feu ça brûle et l'eau ça mouille, quoi, à peu près, pour être, c'est-à-dire que parfois on imagine des odeurs et on finit par les sentir. Donc, on monte quelque chose et on commente. Et puis ensuite, il y a un festival Juliette Binoche. Alors, Juliette Binoche sourit, Juliette Binoche grimace, Juliette Binoche
fait la cuisine.
c'est un peu comme Pauline à la plage, quoi. Il y a quelque chose, rien, je trouve, ne fonctionne, et surtout, voilà, c'est pour la première fois, elle commente ce qu'elle montre. Elle le montrait, même si ça m'ennuyait, très joliment. Le fait de le commenter rajoute à l'ennui et enlève de la grâce.
Charlotte Garçon.
Oui, c'est le paradoxe de faire un film sur le mystère et l'invisible, et d'arriver à une surreprésentation, à une saturation de ce qui est montré et de ce qui est dit. Donc ça, c'est effectivement, c'est difficilement rattrapable. Reste que, il me semble qu'il y a un effet un peu de lévitation possible. Vous disiez film d'ascenseur. Moi, je pensais quand même que... Non, mais... ça n'est pas, je le dis vraiment sans moquerie, c'est-à-dire que les films ont des effets physiques sur nous et que l'un des effets peut être une forme d'impression de méditation, qui n'est peut-être pas d'une qualité grande, mais qui est...
Comme les musiques New Age, vous voulez dire, qui sont censées nous relaxer.
C'est pas la beauté de ce qui est filmé, parce que je suis pas sûre que ce soit en soi beau, mais plutôt le fait de s'arrêter et d'essayer de laisser rentrer dans le plan voilà, ce qui est invisible, c'est-à-dire le vent, et puis de...
Mais ça, d'autres le font très bien, Charlotte Garçon,
oui,
d'autres cinéastes le font
si
très
vous
bien.
Si vous voulez, de donner un squelette de scénario tellement, je suis d'accord, tellement maladroit, qu'au fond, on en arrive à penser qu'elle ne fait que réfléchir sur la lumière, par exemple. C'est-à-dire qu'elle filme très souvent des frondaisons qui sont traversées comme ça par la lumière, et à force de ces plans répétés, on a un sentiment de vide, je veux dire, de rien, et qui est peut-être, si c'était vraiment radical, ce serait un film scandaleux de ce point de vue-là, c'est-à-dire scandaleux au sens positif du terme, et oser d'aller faire un film véritablement sur rien. Quelqu'un qui fait un voyage et qui va au bout, qui laisse la civilisation quelque part derrière et qui va dans une culture étrangère et qui ne trouve rien, c'est-à-dire qui trouve un type qui est un garde forestier et qui ne fait que parcourir la forêt finalement, ça ce serait bien. Mais derrière il y a toute une espèce d'histoire de plantes miraculeuses, etc. Pourquoi ?
Jean-Claude,
je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, Charles Garçon, avec cette idée de saturation. J'ai vu que le titre anglais du film, c'était Vision, donc Vision.
Bravo. Qui n'est pas
traduit comme ça en français, mais qui en fait explique le problème du film. C'est-à-dire qu'il y a ce programme épouvantable pour une cinéaste de dire ce film va être une vision, ce film va refléter mon rapport au regard, mon rapport à ce que je montre, l'itinéraire du personnage entre ce que le personnage voit et ce que le personnage ressent. Et ce programme-là étouffe complètement le cinéma qui pourrait advenir. Il faut dire que l'intrigue avec le garde forestier me semble être une sorte de variation sur l'amant de Lady Chatterley.
Je me demandais si c'était ça, mais...
Mais de la même façon, avec la réduction à tel point au squelette d'une rencontre amoureuse, que ça ne donne pas davantage corps au film.
Thierry Chaise.
Pour moi, les films de Mukwege, c'est vraiment les films de festival, c'est une catégorie à part, et surtout du Festival de Cannes. Et pour une fois, celui-ci n'a pas été sélectionné, donc c'est quand même très étrange. C'est le premier depuis.
Peut-être une raison, alors, du coup, vous écoutez, il y a quelques raisons. Non,
moi, j'ai eu le même sentiment de cette perte que lorsque j'avais vu le film de Gus Van Sant dans près du Mont Fuji, qui s'appelait Nos Souvenirs, où on a l'impression voilà, ces cinéastes se perdent, et j'ai appris que Naomi Kawase allait faire le film officiel des Jeux Olympiques au Japon, choisi par le CIO, et je trouve, en effet, on parle de film d'ascenseur, elle filme parfaitement
les ascenseurs.
Ce Japon.
Non,
mais le Japon, elle met en valeur sans doute son pays, mais vraiment, là, elle a oublié pour moi de faire du cinéma.
Mais peut-être que Charlotte, dans son film précédent qui s'appelait Vers la lumière, il y avait ce personnage qui
c'est
faisait...
C'est déjà assez gonflé.
Oui, oui, mais c'est le titre français. Hein. C'est le titre français.
Oui, mais je crois que c'est une traduction pour le coup, non ?
Je ne suis pas sûre.
Enfin, bon.
Un personnage féminin qui faisait un métier qui était audio descriptrice, c'est-à-dire qu'elle était chargée de décrire ce qu'il y a dans un film pour les personnes non voyantes. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que elle tourne autour de ça, de cette idée que peut-être un film peut n'être que des mots ou inversement que des images de lumière, que des ombres et des lumières. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même qu'elle s'approche vers une forme de neutre, on pourrait dire, mais évidemment de manière maladroite et dans une saturation qui est très paradoxale.
Moi, j'aime le film que raconte Charlotte Garçon, celui que j'ai vu, mais il est très beau celui-là.
Il pourrait être bien.
Merci, je vais tenter la caméra d'or l'année prochaine.
Bon, c'est celui que je n'irai pas voir en cette fin de semaine alors. Mais ce qui est dommage, hein, parce que bon, il y a quelque chose dans le cinéma de Naomi Kawase, mais... Je feuilletais le programme de ça en son rétrospective exposition au Centre Pompidou. Il y a quand même beaucoup de films. Les documentaires, Charlotte Garçon, peut-être un mot dessus. C'est davantage de ce côté-là qu'il faut les regarder aussi.
Mes souvenirs sont un petit peu anciens. Ouais. Elle a fait notamment un documentaire sur la fin de vie d'un photographe qui l'a contacté, qui était son maître un petit peu à l'école de photographie où elle était, et qui, au moment de mourir, lui demande de venir le filmer. Et dans mon souvenir, c'était quelque chose de déjà très orienté
autour...
C'est
la danse des souvenirs, ouais.
Voilà, autour des saisons, de la fin de quelque chose, et en même temps de la lumière. pour moi, son film le plus juste et qui ensuite, comme je disais, s'est peut-être un peu dégradé et décomposé par la suite dans les œuvres suivantes, c'est Chara, le film de 2003, qui repasse au Centre Pompidou deux fois.
Parmi cette programmation, là, nous parlions de Voyage à Yoshino, qui est sorti lui-même. Ça vous fait rire, Florence Colombani? Règle d'y penser. Quoi?
Qu'est-ce Patrick vous... Bruel vient de rentrer dans le studio et ça m'a fait sourire.
Ah oui, mais il sera sur France Inter tout à l'heure. Bah alors, si vous aimez Patrick Bruel, comme Florence Colombani, comme beaucoup de gens ici, ce sera sur France Inter tout à l'heure. Mais il y a un programme sur France Culture toute la soirée que je vais annoncer dans quelques instants. Mais on salue Patrick Bruel quand même, évidemment. Et puis la rétrospective Naomi Kawase au Centre Pompidou jusqu'au 7 janvier. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion, qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir, Sarah, et nous donner sa réponse.
La question était: à quel réalisateur iranien doit-on le film À propos d'Eli, dans lequel a joué Mani Hariri?
La réponse.
Et la réponse est Asghar Farhadi.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour un spectacle qui aura lieu mercredi prochain, le 5 décembre. Ça s'appelle Les Loups. C'est Jean Le Pelletier qui le signe. Mercredi 5 décembre à 19h30, c'est au 104 à Paris, dans le cadre du festival Impatience. Sarah, quelle est la question?
Quel collectif a remporté à deux prix l'année dernière lors de l'édition 2017 du festival Impatience?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. On se retrouvera lundi soir à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Lucille Como, Fabienne Pascot et Thomas Corlin. À notre affiche, 20 000 lieues sous les mers, c'est la reprise de ce beau spectacle de Christian Eck et Valérie Le Sort d'après Jules Verne. Sur la scène du Vieux Colombier, on parlera de Mon Cœur, de Pauline Bureau, qui est un spectacle en tournée, mais aussi à voir sur Culture Box. Et puis, Campana, le cirque Trottola, jusqu'au 22 décembre, au 104 à Paris. Enfin, un coup de cœur, signé lundi soir de Fabienne Pascot. Il sera pour un spectacle qui s'appelle Stück Plastik, de Marius von Mayenbourg. C'est à découvrir au Théâtre Studio d'Alfortville.